Alors, bonjour. Je voudrais remercier les organisateurs de Poésie en ville, Dominique Berly et Catherine Fuchs, d'avoir donné à la Maison de la littérature de Genève, l'association MLG, une carte blanche. Et nous en avons profité pour inviter le poète Alexandre Voisard, que vous connaissez sans doute tous, à venir fêter ici ses 80 ans. On n'a pas l'impression qu'il a 80 ans, pas du tout. Mais voilà, ça se fête en ce moment. Alors, bon anniversaire, Alexandre. Voilà, dans le Jura, il y a eu toutes sortes de manifestations qui se sont succédées. Il est un peu épuisé par cela. Il y a eu des soirées de conférences, de lectures, de poésie, 3 expositions. Une au musée de l'Hôtel Dieu, où on peut découvrir une facette moins connue d'Alexandre Voisard, qui est la création d'aquarelles, de dessins sur papier, d'objets pendant 40 ans qui ont accompagné le travail d'écriture. Cette exposition est à découvrir du 18 septembre au 21 novembre. Il y a une autre exposition à l'espace Auguste Viat, où on a puisé dans le fonds d'archives déposé par Alexandre Voisard en 91. Pour présenter des manuscrits et des carnets qui retracent sa vie littéraire. Cette exposition est visible jusqu'au 10 octobre. Et au Musée jurassien des arts, il y a également une exposition visible jusqu'au 23 octobre, du 23 octobre au 21 novembre, où on évoque les amitiés, les rencontres faites par Alexandre Voisard pendant sa vie, sa création littéraire et artistique. Voilà, et puis je voudrais évidemment remercier aussi la ville de Genève et Patrice Muni pour cette initiative de Poésie en ville qui date d'il y a 2 ans, puisque ça alterne avec la fureur de lire, et je crois que c'est une magnifique idée de enfin valoriser la poésie aussi dans la littérature, et je crois que votre présence montre à quel point ça a du sens. Voilà, et puis finalement, à part Alexandre Voisard qui est venu du Jura pour nous aujourd'hui, et que je remercie énormément, merci à Philippe Morand qui est en pleine répétition au Théâtre de Carouge pour les spectateurs et qui a distrait des heures en plus de travail pour venir nous accompagner dans ce parcours. Voilà. Alors, j'aimerais présenter en 2 mots Alexandre Voisard, si on peut le présenter rapidement, mais je pense que vraiment c'est quelqu'un que vous connaissez. Il est né à Porrentruy d'un père instituteur et musicien qui a été une figure vraiment marquante pour lui, même si elle a aussi été une figure assez lourde et problématique. Alexandre Voisard y a grandi avec 6 frères et sœurs et maintenant il vit en France, tout près de la frontière, à Courtelevent, dans le village natal de sa femme Thérèse, ce qui est un petit peu paradoxal pour le poète du Jura libre qu'il a été, mais qui peut-être justement lui permet de se libérer d'une étiquette qui était un petit peu lourde, peut-être, parce qu'il ne faut pas s'enfermer dans un rôle, même quand ce rôle est héroïque ou magnifique. C'est l'un des plus importants poètes vivants de Suisse romande, et même si on a du mal à le croire, je vous le disais, il vient de fêter ses 80 ans. Il fut très proche de Maurice Chapa, disparu il y a peu, et il a entretenu avec Maurice Chapa une correspondance de plus de 40 ans. Un livre vient de paraître autour de Liberté à l'aube, correspondance 1967-1972, où la correspondance est reproduite, et c'est tout à fait émouvant et très, très intéressant aussi pour la littérature romande et pour l'histoire du Jura que de voir dialoguer ces deux poètes, se vouvoyer d'abord, se tutoyer ensuite et peu à peu développer quelque chose de commun dans l'engagement littéraire. Alexandre Voisard était aussi très proche de Jacques Chessé, et Jacques Chessé lui consacrait, avant l'indépendance du Jura, un des chapitres des Saintes Écritures, écrit en 1971, donc juste avant cette fameuse date de cette soirée de septembre 71. Et je voulais vous lire un tout petit extrait de ce beau portrait, mais donc qui date d'il y a longtemps, d'Alexandre Voisard par Jacques Chessé. Le Jura dépend, c'est un sujet, Et l'une des hautes colères d'Alexandre Voisard, sa passion, sa lutte, c'est la liberté du Jura. Voici le thème de ses grands poèmes. La malédiction qui pèse sur le Jura l'accable et nourrit son œuvre. Pays noir, pays sans voix, qu'il faut inventer en le retrouvant, qu'il faut doter d'un chant, d'une figure propre, qu'il faut sauver du silence où veut l'enfermer l'occupant. Ici, le projet linguistique se confond avec l'invention d'une littérature, d'une poésie, parler sa langue, écrire sa langue pour défendre et pour illustrer le pays. Alors ça, ce serait au fond le premier moment pour Alexandre Voisard. Et les années qui passent, eh bien, qui passent ensuite, après cet engagement, ça va être des années où justement, il faudra qu'il change d'étiquette, il multiplie les voix, les visages pour se trouver. Et ce qui me frappe, Alexandre, aujourd'hui, c'est à quel point de la première écriture à celle d'aujourd'hui, même s'il y a eu une énorme évolution d'expérience et que le poème draine tout à fait autre chose aujourd'hui, c'est la même écriture, c'est la même personne qui parle du début à la fin. D'écrire aujourd'hui, tu écris aujourd'hui avec la même enfance prime sautière, la même ferveur, la même langue, la même sincérité, le même rire, la même mélancolie pudique, peut-être la même angoisse qu'il y a 30 ans. Mais aussi la même part discrète d'hermétisme, de symbolisme ancien, et tout cela était là dès le début, et c'est là encore aujourd'hui. Je suis très frappée par cette constance de la langue poétique, alors que par ailleurs, tu n'as cessé de toucher à tout, après les études inachevées, parce que ton école était plutôt l'école buissonnière, tu as suivi une formation de comédien à Genève, au conservatoire, et puis la nostalgie de la joie t'a repris, tu retournes dans le Jura, et tu es tour à tour postier, comédien, libraire, bibliothécaire, cadre commercial, tu rames pour gagner le pain de ta nombreuse famille, pour finir, délégué aux affaires culturelles de ton canton et vice-président de la Fondation Pro Helvetia, ce qui est un certain parcours. Ça, c'est la deuxième période, la période, disons, institutionnelle. Et puis la troisième commence quand tu te retires pour te consacrer enfin uniquement à l'écriture, qui est là depuis toujours et qui reste maintenant la seule à t'occuper. Ton œuvre, plus de 20 titres à deux versants, l'un poétique et l'autre en prose, incluant nouvelles fantastiques, voire surréalistes, contes érotiques, récits, autobiographies. Tu as reçu le prix Max Jacob, en 1995. Tu sièges à l'Académie Mallarmé depuis 1990 et à l'Académie européenne de poésie depuis 1996. Bernard Campiche a réédité toute ta poésie en 4 volumes. On vient enfin d'exposer tes dessins. On se demande ce que tu peux encore désirer, mais je suis sûre que tu as encore d'autres choses devant toi et on en parlera tout à l'heure. Voilà, je voulais maintenant présenter brièvement Philippe Morand et vous dire pourquoi il est là. Et puis lui céder la parole parce que j'avais envie qu'il présente à son tour son Alexandre Voisard. Donc tout le monde connaît bien entendu à Genève Philippe Morand, qui a été de 1996 à 2003 l'heureux directeur d'un théâtre de poche rempli quasiment tous les soirs à 100% et qui est depuis 2007 le directeur de l'école de théâtre de Martigny, en même temps que metteur en scène, comédien, et il est également directeur de la collection Théâtre en camp poche, soutenue par la SSA chez l'éditeur Bernard Campiche. Donc c'est lui qui choisit parmi les auteurs de théâtre ceux qui vont être édités soit ponctuellement pour une pièce, soit pour l'œuvre complète. Or, Philippe Morand est un jurassien, enfant de Delémont, ce qui constitue une première bonne raison pour l'inviter avec Alexandre Voisard. Après une formation à l'Institut national des arts du spectacle à Bruxelles, il a joué pendant 4 ans au TPR de la Chaux-de-Fonds. Puis après des années de travail indépendant de comédien et de metteur en scène, tu me corrigeras si c'est faux, il est venu à Genève pour diriger le Poche avant d'enseigner dès 2003 à la Haute École de théâtre de Suisse romande et puis d'être nommé directeur de celle de Martigny. Mais ce qu'on sait moins, c'est que Philippe Morand est lui-même poète, est lui-même auteur de pièces de théâtre, mais aussi poète, peut-être avant tout, dans son écriture. Et Au fond, il ne m'avait jamais raconté, on se connaît vraiment depuis longtemps, puisqu'on a collaboré aux Poches en 96, mais il m'avait jamais raconté qu'en septembre 1967, à 16 ans, il avait assisté à la fameuse lecture par Alexandre Voisard de l'Ode au pays qui ne veut pas mourir, devant tout le peuple jurassien rassemblé, et qu'il était lui aussi monté à la tribune pour dire, jeune poète débutant, des poèmes. Voilà, donc il y a vraiment une belle histoire qui s'est tramée là. Et Philippe va également lire un texte de Daniel de Roulet qui était aussi sur la place à ce moment-là, ce jour-là, et qui a aussi entendu Alexandre déclamer. Donc au fond, nous lui devons énormément, toutes les générations qui suivent, lui doivent pas seulement les jurassiens, mais les autres, une espèce d'engagement de la parole vivante qui est très importante. Voilà, Philippe Morin a publié 3 recueils de poèmes, Journal d'Écluse, L'aimant et La fissure, et 2 pièces de théâtre, Icar un rêve et Spirale la nuit. Et donc c'était une pièce de théâtre pour enfants. Voilà, alors je cède la parole à Philippe Morin pour présenter Alexandre Voisard. Je voudrais juste encore rappeler qu'il a monté un spectacle à partir de textes tirés de Un train peut en cacher un autre d'Alexandre Voisard, Opéra Bouffa, qui a circulé dans presque toute la Suisse romande et qui a renvoyé à Alexandre Voisard une vision de metteur en scène, de comédien de ses textes. Voilà, donc c'était vraiment l'interlocuteur clé pour ce soir. Merci beaucoup d'être là et je te cède la parole pour commencer.
Quelle responsabilité. Alors, je dois présenter mon Voisard. Alors oui, bon, ben, ça commence. Il est dans le Jura déjà, pour moi, l'adolescent. Il est déjà un poète reconnu et affirmé, qui a déjà derrière lui plusieurs recueils de poèmes d'importance. Et comme l'a dit Sylviane, ce Voisard du début de Chronique du Guet et le Voisard de 80 ans, aujourd'hui, de la poésie en chemin de ronde, c'est bien le même bonhomme dont il s'agit. Pour moi, à 15 ou 16 ans, j'ai la chance de rencontrer ce bonhomme. Et puis on est dans ce Jura, agité par ses luttes de libération, comme on les appelait, par sa quête d'identité. Et on est dans ce Jura, pour un adolescent comme moi, sortant de l'adolescence ou y étant même encore pas mal, c'est une extraordinaire motivation. Et il y a des poètes, des peintres, des musiciens, toute une série d'artistes jurassiens qui montent au créneau et qui rentrent dans cette question jurassienne, comme on l'a appelée. Évidemment, Alexandre Voisard en est très vite une figure, mais il ne faudrait pas oublier, à côté de lui, dans le Jura, de très grands poètes. Je pense bien sûr à Jean Cutat, je pense à Tristan Solier, je pense à Pierre-Olivier Valzer. On peut continuer. Il y a, avec lui, toute une équipe des Portes de France, c'était le nom de leur édition, qui sont porteurs d'une parole. Et il se trouve qu'il se fait très rapidement une adéquation entre cette question jurassienne et ces artistes, y compris les peintres, hein, faut pas les oublier, Kogouf, Tolk, Voirol et plein d'autres. Bref, il y a une agitation, une effervescence extraordinaire. Et pour moi, adolescent, cette effervescence dans le Jura, à cette époque-là, est bien plus importante, puisqu'on est dans la même période, que mai 68. J'ai passé totalement à côté, mais j'ai eu mes pavés dans le Jura. Et ça, ça a été extrêmement important. Et puis, vient dans ce cursus, le poète Voisard, qui très vite devient le chantre de la question jurassienne, avec l'ode au pays qui ne veut pas mourir. Tout le monde le sait, on ne va pas trop s'allonger là-dessus. Ça devient quasiment la voix de tout un peuple et la voix de petites gens. C'est vrai que, comme l'a dit Sylviane, lire un poème, et j'ai eu le privilège 4 ans après Alexandre de lire un de mes poèmes devant 60 000 personnes repris en chœur par le cantonnier, le maçon, le paysan, l'intellectuel de haut vol, tout le monde reprend ça, c'est une émotion dont on ne se sépare pas d'aussitôt. Donc voilà, ce Voisard-là s'inscrit dans la question jurassienne et c'est à la fois une belle chose, magnifique. Et en même temps, pour lui, c'est un piège. Et il le comprend bien. À un moment donné, il va devoir se séparer de cette étiquette de chantre de la question jurassienne pour affirmer le poète. Et Sylviane vient d'énumérer, je me suis fait la même chose ce matin, Ce Voisard, d'abord, il veut être comédien, porteur de mots. Puis, ça marche pas ou ça se passe pas, je laisserai Coco expliquer. Oui, on l'appelle Coco entre nous. Je le laisserai s'en expliquer peut-être. Il devient postier, porteur de lettres. Puis ensuite, il devient libraire, porteur d'imaginaire. Puis ensuite, il devient délégué aux affaires culturelles de la République et canton du Jura, porteur d'espoir. Et enfin, bien plus tard, il est juste en grand poète, porteur de sa langue. Je trouve que ce parcours est tout à fait significatif, exemplaire de ce qu'il a cherché. Au fond, il a cherché quoi ? Il le dit très bien dans ce dernier recueil, La poésie en chemin de ronde. J'ai cherché ma voix, j'ai cherché ma langue, j'ai cherché mon écriture, j'ai cherché mon expression. Et il a passé sa vie à ça. Dans ma bibliothèque, ça fait 90 centimètres maintenant. Heureusement que tout le monde n'est pas comme lui. Mais c'est énorme, c'est une œuvre énorme. Et on a souvent, à cause de cette question jurassienne, voulu ramener Voisard à un poète régionaliste. C'est vrai que j'étais très fier de connaître un type, un écrivain, qui était dans un dictionnaire. Je trouvais ça super. Je le connaissais et je l'admirais. Mais quand j'ai vu poète régionaliste, ça m'a fait mal au ventre. Parce que, quand moi qui aime la poésie, quand je pense à Césaire, à Senghor, à Chéadé, quand je pense à Pablo Neruda, Nazim Hikmet, Yanis Ritsos, René Char, pour qui ce sont tous à la fois des poètes résistants, des poètes rebelles, des poètes qui ont travaillé avec la langue, l'esprit du monde et nous ont donné une humanité très forte. Donc, personnellement, j'aimerais, et c'est un ordre Coco, c'est pas une demande, j'aimerais que tu vives encore un sacré bout de temps et que tu continues à écrire encore un sacré moment pour que, dorénavant, quand je lirai un dictionnaire, on dit « poète universel de langue française ».
Je t'approuve tout à fait. Mon Dieu, qu'ajouter à tout ça Soit dit en passant, par parenthèse, j'ai un peu l'impression qu'on anticipe le débat qu'on devrait avoir demain sur l'engagement.
Mais c'est pour ça qu'on va quitter ce sujet-là, hein,
voilà.
si tu veux. Parce que c'était pas la question de qu'est-ce que l'engagement en poésie,
oui.
Mais au fond, le début d'un chemin d'écriture pour toi, qu'il faut rappeler, qui est une réalité, et en même temps, ce qui nous intéresse dans ton travail, c'est le tout. C'est-à-dire comment cette voix, parce que au fond tu dis que il faut partir du particulier pour aller au général, un petit peu comme Ramu l'a toujours dit, hein, c'est-à-dire il faut s'ancrer dans quelque chose. Il y a toujours du réel, du réel infime, même des petites choses, mais à partir de là il faut trouver une voix à soi. Et c'était on va essayer avec Philippe de scander cet échange avec toi d'extraits de la poésie en chemin de ronde, qui est donc ce dernier livre qui est paru aux éditions Empreintes tout récemment d'Alexandre Voisard et qui est un magnifique ensemble d'aphorismes, mais qui sont écrits d'une manière qui est elle-même profondément poétique. C'est vraiment tout à fait son écriture, mais en prose et sous forme d'aphorismes. Et il jette au fond toutes sortes de réflexions sur son travail en poésie, sur le rapport à la vie, sur le rapport à la langue, etc. Alors, on a sélectionné quelques extraits, puis on voulait peut-être partir de là pour te demander de rebondir sur ces quelques extraits et voilà, de parler d'une part peut-être du début de l'écriture, de l'enfance, en quoi elle est déterminante, etc., puis de faire un chemin. Est-ce que ça te va ?
Oui, voilà. Tout faire.
Alors, tu veux peut-être prier ?
En ce temps-là, nous avons voulu à tout prix être entendus. Les poèmes, alors, parfois, rappliquèrent en rafale, échevelant la feuillée. Et sur la place publique, il arriva, à la stupeur des cantonniers somnolents, que les vers, enfin libres, crépitent comme des feux d'artifice et illuminent des pans entiers de solitude. Et nous ouvrîmes des sentiers, puis quelques chemins, à ceux-là qui ne croyaient plus pouvoir mettre un pas devant l'autre. Que d'obstination, que de rage à vouloir trouver sa voie. Dans cet acharnement rarement satisfait, la moindre joie, à défaut, est de trouver son ton au bout d'une note que chacun s'accorde à trouver juste.
Voilà, est-ce que c'est pas ça l'essentiel ? C'est-à-dire trouver une voie à soi que tu as, me semble-t-il, touché tout de suite ? S'y tenir, ne pas dévier de là, enfin, à toi de répondre.
Oui, je crois que j'ai compris très tôt que si je voulais être entendu, je ne pouvais l'être qu'à travers ma vraie voix. La voix profonde que je devais aller chercher très loin en moi. Ce qui supposait un grand travail. Déjà un travail pratique sur les mots, sur le un travail d'écolier en quelque sorte sur les mots, à apprendre à fabriquer une phrase, à peser les mots pour les assembler. Et ça, c'était une de mes premières préoccupations. Et puis l'autre préoccupation, mais qui est peut-être, je crois, le corollaire de l'autre, c'est que je me suis longtemps senti comme une graine un peu nomade, comme ça, pendant les 20 premières années de ma vie. Je ne savais pas trop où le vent allait me déposer. Et j'ai fini par comprendre que je devais absolument prendre racine quelque part. Et puis cette racine, la petite graine s'est posée là où elle devait se poser, dans ce pays natal. C'est comme ça, et c'est dans cette terre-là que je devais vraiment prendre racine, et ayant pris racine, m'incarner de toutes les manières possibles pour ressembler à ce à quoi j'avais épousé de quelque manière. Et en même temps, je sentais le besoin impérieux de parler, justement, de m'adresser à cette communauté d'hommes dans laquelle moi je m'étais éveillé à la vie, où j'avais grandi, où je m'étais incarné, comme je viens de le dire. Et cette voix, elle a eu aussi un peu de mal à faire son chemin, à trouver ses vraies gammes. Je crois que je suis devenu le poète que je suis à force d'obstination. C'est une vocation d'obstiné, je dirais, ma vocation poétique. Je ne crois pas avoir eu un don inné. Je ne crois pas que j'étais une sorte de génie incarné. Pas du tout. Je crois que je suis le produit de quelque chose qui s'est construit avec une obstination et une certaine rage aussi, pour devenir ce quelqu'un, ce quelque chose qui aurait la capacité de parler aux autres et d'apporter quelque chose aux autres, parce que peut-être que je me sentais un peu porteur de messages que beaucoup dire. Aujourd'hui, je ne crois plus du tout à ce messianisme-là. Mais je crois que ma sensibilité me portait à parler aux autres. Et voilà. Je pourrais dire que ça, ce sont les vraies origines de ce qu'on peut a posteriori appeler une vocation, la vocation poétique, mais je dirais la vocation avec beaucoup de guillemets. Et oui, enfin, voilà, à partir de là, une œuvre a pu surgir, faire son chemin. Elle est ce qu'elle est aujourd'hui, mais bon, voilà, je crois avoir fait une espèce de bilan dans les quelques textes que vous avez lus et qui sont contenus dans ce dernier livre, qui n'est pas l'ultime livre, hein, on s'entend bien.
On s'entend bien.
J'ai compris les injonctions de Philippe là, tout à l'heure.
Rappel incessant des origines au creux du poème. C'est pourquoi celui-ci est, quant à moi, hanté d'enfance. À n'en pas douter, il s'agit d'un jaillissement de source, impossible à retenir ni à apaiser. Mais encore, cette contamination enfantine, venue de si loin, n'aura-t-elle pas de nom ? Alors, disons qu'elle est un grelot, accroché en soi, tel un appendice viscéral qui s'agite au moindre mouvement de l'être, au plus léger battement des paupières. Un grelot, oui. L'acte poétique est par essence paradoxal. Le poème, dans son effervescence, dit tout et son contraire. C'est ainsi, sans doute, que la poésie est totale.
Merci. J'ai relevé une phrase de Maurice Chappa dans cette correspondance qui dit au début, recevant le premier poème, Liberté à l'aube, il y a une merveilleuse candeur qui fait que votre vie ne se sépare pas de la poésie. Et quand Chappa dit qu'une vie ne se sépare pas de la poésie, c'est tout à fait fort, parce que c'était aussi sa propre vision du poète et de sa propre vocation. Et à ce mot de candeur, une lettre de toi réagit en disant qu'il n'y a plus d'innocence véritable, mais que ton souci est peut-être pas de retrouver, mais de s'attacher à cette forme d'innocence qui pourrait exister et qui pourrait nourrir la poésie. Est-ce que tu penses toujours cela ?
Oui, je pense toujours. Je pense qu'il y a toujours une grâce poétique. Une grâce d'ailleurs presque insaisissable, en tout cas très fugace, qu'on a de la peine à retenir, à domestiquer, à encadrer et à garder pour soi. C'est essentiellement quelque chose de volatile, à la fois de volatile et de fraternel. C'est précisément ce qu'il y a à partager et qui ne se laisse pas attacher, qui va vers l'autre. Et c'est pourquoi le poète ne peut pas s'approprier la parole. Il peut la partager, la proposer, mais il ne peut pas se l'approprier de façon définitive. C'est peut-être là qu'est la candeur dont parle Chappa. C'est une candeur qui est nécessaire, je crois, à l'état poétique, si on veut vivre en poésie. C'est une formule qu'on a pas mal utilisée déjà, et qui ne veut pas dire la même chose pour chaque poète qui emprunte cette formule-là. Mais pour Chappa et moi, je crois qu'on était en affinité totale. On a été même souvent, je dirais, en complicité, Chappa et moi, parce qu'on avait le même besoin de cette incarnation dans un pays qui va bien au-delà du folklore et de la nécessité d'illustrer son coin de pays dans le paysage avec son drapeau. Il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit que le pays physique est à la fois le pays d'enfance, le pays qui est en soi. Je crois qu'un vrai pays se construit tous les jours à travers la parole. Bon, j'aurais pas l'outrecuidance de dire que aujourd'hui, quand je parle, c'est le Jura qui s'exprime. Hein. Mais c'est quand même pas. Ça, avec la prétention, va pas jusque-là. Mais il y a une ambition foncière, fondamentale, d'être reconnu comme étant issu, comme étant ressortissant au sens propre de cette terre-là, de ce pays-là, et de la même manière de proposer à chacun de suivre un chemin parallèle, dans le fond. Moi, ce qui m'importerait, c'est que la parole que je propose, la parole à partager, elle continue à se propager, cette parole-là, et que chacun soit le poète de quelque chose, le poète de quelqu'un, le poète d'une terre, le poète d'une espérance. Enfin, que chacun, chaque parole soit porteuse de quelque chose de significatif, soit porteur d'une identité aussi. Mais je cause.
Mais oui, dans le prolongement de ce que tu dis là, est-ce que finalement le pays, ce n'est pas aussi ce qui est véhiculé par la langue, par les traditions orales, par les récits qui sont transmis? Et c'est André Wyss, dans Alexandre Lajoulot, ce texte où il te rend hommage, qui mentionne le fait que parmi les images les plus fréquentes, il y a celle d'une sagesse ancestrale, anonyme et collective de la nature, et que dans ce monde, tout est signe, proverbe et légende. Et au fond, très souvent, tu atteins une sorte de parabole ou de symbole qui est à toi et qui est peut-être plus qu'à toi et qui te vient de très loin, peut-être.
Oui, certainement, qu'ajouter à ça. Mais difficile de commenter une affirmation comme celle-là.
Tu ne sais pas d'où ça vient.
Pardon ?
Tu ne sais pas d'où ça vient, en fond.
Non, je ne saurais pas dire. Je crois que c'est originel au sens propre du terme et indéfinissable. C'est la gangue en quelque sorte. C'est la gangue dont je suis issu et à partir de laquelle j'ai essayé de me débarrasser de ces coquilles. J'en ai plusieurs. Hein. Je me suis débarrassé de mes coquilles l'une après l'autre. Il m'en reste peut-être encore quelques pellicules, d'ailleurs. Mais voilà, j'ai dû sortir de cette gang pour me façonner. Mais c'est vrai que, oui, on se répète.
Il y a des allusions.
On se répète, mais je me suis façonné à travers ma langue. Je crois que si je n'avais pas eu la ressource de la langue, je n'aurais pas vécu. J'ai un sentiment très fort que j'ai aujourd'hui. Si j'ai une certitude aujourd'hui, c'est celle-là. C'est que l'écriture, la capacité à partager la parole m'a sauvé la vie. Quand j'étais un jeune poète de 18 ans, romantique et ébouriffé, je pensais ne pas devoir vivre au-delà de l'âge du Christ, par exemple. Mais je crois que tous les jeunes poètes comme ça, enfin beaucoup, passent par cette transe-là. Mais voilà, mais ça veut dire, disons que c'est cette idée-là qui me revient maintenant parmi mes souvenirs, me confirme dans cette conviction très forte que j'ai d'avoir échappé à la mort grâce à la parole poétique.
Oui, et quand tu dis que le poème est par essence paradoxal, il me semble qu'il y a dans ta poésie un mélange très fort d'angoisse énorme et d'une espèce de capacité à toujours digérer le tragique de ce que tu as vécu et aussi peut-être d'une enfance difficile, de toutes sortes de passages difficiles, mais chaque fois la nature d'une part, et la langue qui s'empare de toutes ces émotions, de tout ce rapport aux choses, digère tout cela d'une façon assez incroyable, et l'angoisse se dissout dans une parole qui devient de l'humour, qui devient de la cocasserie, qui devient... Et tout à coup, il y a l'angoisse qui ressurgit. On a l'impression qu'elle est là, mais qu'elle est sans cesse dissoute.
Oui, mais ça, c'est un jeu perpétuel, ça. On est toujours en lutte, en but à ces démons et en lutte avec eux. Moi, j'ai pas pu éliminer tous mes démons. Ils sont là, ils me tiennent compagnie. Ils sont pas commodes. Je ne le suis pas non plus. Mais voilà, il faut se battre avec ses parts d'ombre, essayer de dégager une figure de soi un peu lumineuse.
Mais je trouve que tes démons, tu en parles magnifiquement. Et que, entre le vers libre et la prose, pour avoir travaillé sur Opéra Bouffa sur 4 récits, peu nombreux sont les poètes qui parlent aussi bien, avec une langue aussi riche, aussi savoureuse, de la canaillerie rimbalienne qui est en toi. Et ça, je trouve que c'est, pour nous, un grand privilège. Il y a un poète québécois, Michel Garneau, que j'aime beaucoup, qui est un ami, et qui me disait un jour, un poète qui ne parle pas d'argent n'est pas un poète. J'ai envie de dire avec toi, un poète qui ne révèle pas ses démons n'est pas un poète, et ça, tu sais diablement bien le faire, et ça nous est, comment dire, non seulement savoureux, mais c'est aussi la révélation de ces parts d'ombre dont tu parles, que tu as la franchise, l'honnêteté de dire. Et de ce point de vue-là, je trouve que c'est vrai qu'il y a une filiation en Suisse romande. Je ne sais pas, on peut ne pas partager ce point de vue. Mais c'est vrai que tu es quand même le digne successeur, le fils, l'héritier, bien sûr, de Gustave Roux, de Jacotet, de Werner Renfer, de Nicolet, de Gioc. Tu es évidemment de Chesset, de Chappat. C'est-à-dire... que je crois qu'on doit être très fiers, nous autres Suisses romands, et il serait temps que la France s'en rende vraiment compte, dans le fond des choses et dans la vérité littéraire, qu'on a ici, pour ce petit coin de pays, avec toi, Coco, aujourd'hui on pourrait t'appeler un poète majeur, un poète de la maturité, et ceux que je viens de citer l'ont été aussi. Vous êtes pour nous des guides, vous êtes pour nous des compagnons, et vous êtes parfois des paroles apaisantes absolument nécessaires, et des paroles révoltées tout aussi nécessaires.
Merci Philippe, oui. Ça me touche beaucoup ce que tu dis, oui.
T'es pas obligé d'être d'accord.
Hein. Mais je suis tout à fait d'accord, je suis très touché par... voilà. Je te sais foncièrement sincère. Tu ne m'as jamais rien caché.
Non. Du poème comme journal intime. Ma poésie aurait été un chantier à jamais inachevé et désespérant, où j'ai eu à m'interroger pour me comprendre et pour situer mon rapport au monde. Prélude et fugue autour de 3 règnes, parmi les 4 éléments présents à chaque pôle de mon être. Dans cet enchevêtrement baroque et sorcier, j'ai souvent et avec insistance évoqué l'animal, la bête, comme une parodie d'alter ego. Le frère inférieur ne m'a pas fui, ne m'a jamais fait faux bond. Ça aussi, cette espèce de rapport extraordinaire. T'es vraiment un homme qui sait nous raconter la nature, qui sait nous raconter la profondeur des odeurs de la terre et de l'animal. Ça aussi, il faut bien venir du Jura pour le faire si bien, même si d'autres l'ont fait et qu'il venait d'ailleurs. Mais pour moi, c'est une chose extrêmement importante que tu m'as donnée. Et c'est pas au sens... jurassien, identité, etc. C'est au sens d'une expérience de vie.
Et universelle.
Universelle, comme je le disais tout à l'heure, et d'une expérience de vie que tes mots sont capables de me faire partager.
Merci, Henri.
travail ou non, patience et sueur ou non, le poème naît toujours de l'urgence, dans l'urgence, sans affolement, si chaque vocable d'emblée est à sa place. C'est vrai que c'est un laborieux travailleur, voilà.
Et en même temps, tu dis que tu ne retravailles pas tes poèmes, souvent qu'il faut qu'ils aient trouvé leur forme longtemps mûrie dans ta tête, mais que les retravailler, pour toi, c'est presque une trahison, si je comprends bien, du mouvement du poème, de sa cohérence, de son organicité, comme si à vouloir ensuite intellectualiser un peu ou transformer en volonté le travail, quelque chose était menacé.
Oui.
Mais est-ce que tu retravailles très souvent tes poèmes ?
Non, mais non, je surprends régulièrement mes interlocuteurs en disant que mes poèmes trouvent leur forme définitive au moment où je les écris, au moment où ils passent de la plume au papier. C'est vrai pour l'essentiel, c'est comme ça que ça se passe, parce que le poème doit être écrit dans ma tête, il se formule au tréfonds et il trouve sa forme dans ma tête. Donc moi j'y réfléchis beaucoup, souvent c'est en marchant d'ailleurs que le poème s'écrit, en tout cas qui prend son envol, parce que bon, les cinq ou six vers qui sont écrits d'avance, qui sont dans ma tête et qui passent sur la feuille de papier blanc par l'intermédiaire de la plume ou du crayon, il va peut-être rester dans cet état, ce sera un sisin, un haïku qui va rester en l'état, mais qui peut-être suscitera le lendemain une suite. Je le prolongerai parce que le poème initial ou les vers initiaux m'habitent toujours. Je les ai toujours en moi quelque part, donc je m'en suis pas tout à fait libéré et continue à me travailler. Et les vers s'enchaînent, peuvent s'enchaîner comme ça au long des jours. Donc l'écriture d'un poème peut prendre plusieurs jours de cette manière-là. Mais dès l'instant où ils sont sur le papier, c'est que tout fonctionne selon mes règles personnelles, selon mes règles prosodiques à moi. Chaque mot est à sa place, c'est ce que je disais dans ce petit texte. Chaque mot est à sa place. Tout s'enchaîne parfaitement à la fois dans ma logique et dans ma musique, parce que le côté musical est très important. La poésie doit être rythmée, elle doit avoir une qualité sonore, une justesse sonore. Et voilà, alors tout ça se fait. Je les parle sans les proférer, ces poèmes. Je les parle in petto, comme on dit, hein. Et ils se forment comme ça, ils arrivent. On pourrait même dire qu'ils me sont donnés, hein, qu'ils me tombent comme ça du ciel, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Mais si on regarde mes manuscrits, j'en ai pas à vous montrer là à l'instant, mais mes manuscrits, ils n'ont pratiquement pas de retouches. Je ne sais pas si dans les documents que vous avez là, si on peut le vérifier, mais peu importe. Croyez-moi sur parole. Hein.
Jour après jour, je persévère en mon dessein de remettre, comme il était écrit au fronton de l'atelier de mécanique, chaque chose à sa place, puisqu'il y a une place pour chaque chose. Je fais le rappel, je bats des mains, je siffle, je m'obstine à frapper à la porte des mots qui en sortent engourdis et débraillés. Ce ne sont peut-être pas ceux-ci qui me diront d'où ils émergent, ni vers quel affluent ils se laisseront dériver.
J'avais une autre question, c'est que tu as plusieurs noms. Alexandre Lajoulot, tu t'appelles Antonin de Calabrie pour les petites, les poèmes cartes postales. Et dans, je ne sais pas si vous savez, il y a un poème où quelqu'un dit « je », qui se nomme Arthur, et qui est peut-être Rimbaud, et j'ai l'impression que c'est aussi toi. Et je me dis, ce poème-là, peut-être, il est encore une des figures où tu te mets en scène, parce qu'au fond, tu es quand même un poète qui est passé par le théâtre, et qui est quand même... dont le jeu, me semble-t-il, passe par toutes sortes de visages. Ce n'est pas que ce soit des masques du tout, ce sont des voix de toi différentes qui passent par des noms différents, qui passent par des jeux différents. Et j'ai un petit peu l'impression que ce qui compte là au milieu, c'est la liberté. Enfin, j'avais juste envie de lire ce texte-là. Et tu me diras si c'est un autoportrait ou pas, un petit peu, de toi.
Je suis partout, de toute façon.
C'est partout. Oui. Je vais, je viens. C'est mon seul tort, mon unique faiblesse, aller-venir. Il y a des êtres qui s'attachent à d'autres êtres, mais ça, tu le fais. Ils en ressentent comme un poids qui, visiblement, ne les gêne pas. Au contraire, ils s'en montrent comme allégés, saisissant à tout vent, du bout des lèvres, les frissons qui passent. Fines graines d'une passion profuse dont ils sont friands, les croiraient libres, comme l'air, et pourtant on ne les voit qu'immobiles ou lents, bouche offerte aux fumées et les mains, bien qu'élégantes, suspendues au-dessus des verres. Quant à la liberté de l'air, c'est de moi cependant que l'on dit « Arthur, c'est un courant d'air ». Et encore est-ce là une appréciation toute euphémique de mes bonds sur les toits, de mes élans vertigineux au-delà des lunes et des plaines. Je vais, je viens. Je dois bien cet aveu serein à ceux que navrent mes allées et venues et qui s'interrogent. Je ne me lie pas au nombre, ni aux disciples qui vivent le présent dans leur passé, le passé dans leur présent. Je vais, je viens, je vais. Savez-vous que je m'épuise à parcourir immensément des espaces infimes et que je dois en occuper chaque recoin à tout instant, les préservant des miasmes coloniaux ? Avez-vous jamais imaginé ce qu'il faut d'obstination, c'est le mot que tu employais, pour sillonner son propre cerveau, traverser ses poumons, remonter jusqu'à la gorge et s'y maintenir, arpenter son intestin, investir son urètre à l'heure dite ? Ô vous qui jouissez du sommeil et qui nourrissez tant d'ambitions, d'ambitieux projets, vous doutez-vous de ce que cache ce simple mot « veiller » ?
Oui, alors c'est une sorte d'alter ego qui parle, là, certainement. Non, mais j'ai beaucoup pratiqué dans la prose la parodie. Et la parodie, en général, enfin, très souvent, c'est une parodie de moi-même. Je me parodie moi-même. Comme ça, c'est un petit jeu que... Voilà. Pour moi, l'exercice de la prose a cette vertu première de me mettre en question avec tous les doubles que j'imagine.
Il y a aussi Anselme Buvard dans le nom. Oui, comment tu rites toi-même.
Voilà, alors cet Arthur pourrait s'appeler Anselme Buvard, qui est un autre de ces personnages ironiques qui sont un peu les messagers de mes comment on pourrait appeler ça, de mes diableries,
de tes pessoïtés. Pessoa.
On pense aux hétéronymes de Pessoa. Est-ce qu'il y a quelque chose à voir avec ça?
Oui, alors, bon, c'est, bien entendu, ce qui impressionne souvent le lecteur, hein, appelons-le comme ça, l'autre qui est en face de soi, c'est cette plume qui passe de la gravité à l'ironie, à la cocasserie, et c'est un chemin. Il y a une amplitude très très difficile à concevoir et à accepter de la part d'un auteur. Et comment est-ce qu'on peut être aussi grave un jour, écrire des choses même sombres qui interrogent profondément l'être dans sa souffrance, et puis un autre qui cabriole, qui fait des facéties, et qu'est-ce qu'il y a de commun entre ces deux-là? C'est une de mes grandes questions. J'ai pas de j'ai pas de réponse. Je suis fait comme ça. C'est les deux pôles de mon être, comme il a dit quelque part dans un texte. Et j'ai besoin de ce va-et-vient entre ces deux parts de moi-même. C'est peut-être la part de la lumière et de l'ombre, mais de quel côté est la lumière et de quel côté est l'ombre, ça c'est encore une grande question. Je ne serais pas tranché là-dessus si la lumière n'est pas dans le grave et l'ombre dans le cocasse. C'est une question que je me pose souvent. C'est pour ça qu'il y a parfois des allusions, comme dans le texte que tu viens de lire, ils sont tout à coup, on se dit, mais où est-ce qu'on est? C'est pas, on n'est pas dans la rigolade, on est bien au-delà. Mais où? Ben, on ne sait pas. On ne sait pas. Je crois que c'est parce qu'on ne sait pas qu'on continue, qu'on persévère dans l'écriture. C'est qu'il faut qu'on arrive à régler ces questions-là. On doit finir par savoir expliquer ce que c'est, comment ça fonctionne. Vous savez, moi, je me dis toujours, quand je publie un livre, hein, je vais chez un éditeur avec un petit manuscrit, je me dis, la prochaine fois, il faudra quand même que je sois plus simple, que je sois plus clair, parce que c'est toujours trop compliqué. Il faut que j'arrive à une simplicité qui soit évidente, qui soit lumineuse. Qu'on n'ait pas de questions à buter sur des interprétations, c'est pas normal. Il faudrait que tout ça soit vraiment pète de lumière et qu'on soit entendu instantanément, que la parole passe comme ça, qu'on me croie sur parole à l'instant.
Est-ce que c'est pas ça la littérature? C'est ce qui justement réserve son mystère jusqu'au bout.
C'est... Oui, ben j'ai encore du boulot. Hein, je veux dire.
C'est bien ce que je dis. Tu dois vivre longtemps et écrire beaucoup. Quand Henri Michaud proclame « Non, la terre n'est pas ronde, il faut la faire ronde », on peut comprendre qu'il intime à tout créateur, au poète sans doute et à lui-même, d'entreprendre la transformation du monde. Il reprendrait ainsi à son compte la formule de Rimbaud, changer la vie. Mais on peut aussi entendre sa consigne comme une métaphore du travail poétique. Rien donc ne serait plus urgent que d'entrer dans le vif du réel pour le transformer en une réalité encore plus évidente sous l'outil jamais apaisé du langage.
Voilà, je me proposais peut-être de laisser la parole à Alexandre Voisard pour qu'il lise un peu de sa poésie, parce que nous sommes là aussi et d'abord pour ça, et ensuite de vous donner la parole si vous avez des questions.
Je vais vous lire quelques poèmes d'un petit livre qui est apparu il y a quelques années, 3 ans je crois. J'ai aucune notion du temps, mais 2007, chez Seger, c'est un petit livre que j'ai appelé de Cime et d'Abîme, qui faisait référence à ce truc qu'on a quand on apprend l'orthographe dans les écoles, où est-ce qu'il faut mettre un circonflexe. On disait la cime est tombée dans l'abîme, donc il fallait mettre le circonflexe là où était tombé. Alors j'ai écrit un petit texte pour présenter cette petite suite de poèmes. Je vous la lis parce que elle situe le propos, je crois. Qui vit en osmose avec les éléments, craint moins la bourrade de l'ouragan que la fragilité d'un sentiment d'amour. Qui vit de l'air du temps, s'il s'imagine volontiers en ramier, qui n'a peur de l'eau, se verra toujours plus carpe que fourmi. Ainsi se peuple la terre d'êtres déterminés à cultiver leurs penchants. Le poète, quant à lui, qui projette si aisément ses rêves en plein ciel, et qu'en retour il recueille souvent délabré, à la faculté, ou fin de l'avoir, de se voir grandir en peuplier, vaquer en chat ou mûrir en framboise. Il devient alors un autre en restant lui-même. Joue-t-il avec l'ordre des choses alors qu'il songeait à le sauvegarder, même si par défi ou fantaisie, il en a brouillé un seul instant les cartes et embué les règles. Alors-t-il demande d'être son miroir, au coquelicot son témoin. C'est ainsi qu'étant toujours lui et un autre, il se parle à soi-même, tarabustant son alter ego, le sommant de lui renvoyer son image indocile et mouvante. De discours en discours, les vérités de l'un proférées à voix haute prennent sens tranquillement pour tous. Avec ces mots, le poète fait des ricochets sur l'eau de la parole commune. Un voisin narquois, parfois, dira de lui « Je l'ai vu hier au bois de Failly, il parlait tout seul. » Alors, je vous lis quelques poèmes de cette suite, pour que vous ayez un peu entendu ma voix poétique, avant qu'on se quitte. Voir, premier devoir de qui veut aller de l'avant, forcer la roue des mauvais sorts, voir absolument comment le désir te traîne devant son miroir sans cesse rougissant. Le chuintement têtu de la pierre sur ta lame alerte la perdrix, réveille en toi des pensées enfouies. As-tu bien toujours eu, demande-t-il, ce petit grain sur la langue, cette cicatrice au pouce, et quel raffut soudain alentour? Ai-je jamais eu dans ma famille ces cousins railleurs, pilleurs de taillis? J'étais entendu, compagne, alangui de fin d'été, amaigri d'avoir tant interrogé la sagesse des dictons volés au vent. Je t'ai entendu. Un bon chef ne m'étonne bien que ce qu'il n'a pas mendié. D'autres s'accommodent de l'arrogance des trafiquants de suif, des tricheurs en tout genre et en nombre, tandis que tu t'acharnes à écorcer pour prouver que survivre est possible, quoi qu'il en coûte, même entre les pages d'un livre oublié. Si tu veux être entendu par-delà les moulins pauvrement couchés, si tu veux qu'on t'écoute dans le brouhaha des cités serviles, à travers la cloison des sentiments, de venelles en place et de rues en impasse, alors la forteresse de tes lèvres devra céder bien plus d'un pouce de truculence et d'hyperbole. Je te le dis. À défaut de rebâtir ta vie, comme le prêchent les colons bouffis de repentir et d'aise, sache deviner les noms de l'eau dans toutes les langues, connues ou inconnues. Toujours sache révéler les territoires où ton pied a meurtri la terre. Accroche-toi à la hutte dématée où ton désir croit faire fureur encore. Tu voulais être celui qui voit en même temps que celui qui dit. Les mots te venaient à la bouche comme par un miracle visionnaire. Les astres avaient semé quelques pépites en ta prunelle. Tu vois, tu dis, tu persévères, mais tu baisses la tête pour retrouver le nom de telle ou telle étoile au ciel. Sois un homme, poète ou non, qui ne ferme de tiroir à épices dans sa tête, qui ne fait pas commerce de quelques idées, mais qui a le sentiment de l'univers au bout des doigts, mais qui entretient secrètement un amour bien noué, espérance informulée. Sois le père et le fils de toi-même. Efface toi-même ton ardoise, avant que s'en charge l'aquilon créancier de tout naufrage. Trop longtemps on a prêté à d'autres le crime de coucher les blés pour y couvrir de sang les fiancés. Maintenant, il te reste à dériver avec des mains vides et pures par les déserts d'iode drapés d'espérance, à peine audibles en leur halo, et à nous tous d'annuler nos pistes et de brouiller nos traces. Ça ira ?
Alors, je ne sais pas si nous arrêtons ou si vous avez des questions encore. Dominique, est-ce qu'il y a encore un peu de temps ? Voilà, alors, à vous. Il faudrait tenir peut-être un peu mieux le micro. Parce que...
Ah oui, voilà, excusez-moi. Est-ce que vous ne pensez pas que cet état de mouvance dans lequel se trouve le poète, qui peut devenir un lilas, une bouteille, Napoléon, etc., a à voir avec l'énergie ? Dans lequel un état énergétique qui fluctue et qui et qui pousse le poète à être mouvant.
Peut-être la question de l'ectoplasme.
Je suis pas sûr d'avoir compris votre question. Est-ce que c'était une question.
Est-ce que cette mouvance du poète n'est pas liée à un état d'énergie particulier qui est très contradictoire ou très évolutif ou très changeant?
Oui, rien n'est définitif, Dieu merci. Alors moi, je ne cherche pas à écrire le poème qui expliquera tout. Je ne sais pas répondre à ces questions-là. Ce sont les questions que je me pose. Vous les formulez autrement que moi, je me les pose, mais elles sont de cette nature-là. Donc il n'y a pas de réponse. Il n'y a que des tentatives de réponse et des besoins d'avancer dans notre nuit, dans la quête d'une lumière. Voilà.
Est-ce que pour le poète, c'est si différent que pour le comédien, pour le créateur, quel qu'il soit ? Est-ce que plutôt que seulement parler de mouvance, on ne devrait pas parler de croyance ? C'est-à-dire quand un poète croit, il écrit et il peut se transformer effectivement en papillon ou en machine Nespresso. Et avec la même sincérité, avec la même... c'est exactement comme... La croyance dans son imaginaire pour un comédien qui peut fort bien jouer une libellule ou jouer un poète maudit de 80 ans qui viendrait du Jura, pourvu qu'on y croit. C'est pas une réponse, mais c'est une forme d'interprétation. Mais le poète, il se prépare toute une vie à écrire en mots.
Oui, on est là pour faire croire à ce qu'on dit. Et le comédien, éminemment, c'est ce médium indispensable, ce porte-parole. C'est à lui de rendre crédible cette parole poétique.
Tu parles quelque part de réveiller les mots engourdis par rapport dans ton rapport à la langue.
Oui.
C'est ça aussi, peut-être. Le poète, il réveille les mots autrement dans la langue commune qu'on ne les entend ou qu'on ne les perçoit d'habitude. Il va les chercher autrement.
Oui, il y a des mots qu'il faut régénérer en les mettant en question avec ses congénères de façon à leur... Il faut essayer de leur retrouver une virginité aux mots. Il faudrait que... Chaque mot qui est dans un poème soit neuf, soit et une valeur de virginité comme ça, qui soit pure, sans tache, et voilà, qui soit indiscutable. Alors bon, voilà. Donc c'est à force de les mettre en question que on peut arriver à leur donner cette ce sens qui est une nouvelle virginité, c'est, oui, La difficulté, dans un de ces textes, je crois pas que tu l'aies lu, Philippe, je crois, la grande difficulté a toujours été de... le besoin de... Ouais, certainement que toi, tu l'avais signalé. La difficulté pour le poète, c'est de fabriquer une langue avec des mots qui sont les mots des autres. Ce sont les mots de tous, mais les mots des autres. Et pour chacun d'entre nous, les mots ont un sens. Alors, le poète est en prise avec ça. Il doit inventer une langue qui utilise des mots qui ont un sens commun et auxquels il tente désespérément de donner un sens différent et nouveau. Oui, voilà, très tôt, merci. Très tôt, de tout temps, m'est venue l'idée que j'aurais à inventer une langue qui serait tout à fait mienne et qui ne dirait que ce que je pense. L'obstacle, toujours, serait cet inévitable écueil de grandir avec les mots des autres, qui sont les mots de tous. Car rien, je le suis, bientôt ne nous arrive sans les mots, comme les embruns ne nous viennent que de la mer. Dans le fond, pour moi, ça pourrait être une conclusion, provisoire, bien entendu, puisque tout reste ouvert.
Ben, merci beaucoup et merci à vous de votre présence. Merci beaucoup. Thank you.